suis un petit peu mal à l'aise quand même avec l'enseignement, enfin la personne d'enseignement, c'est vrai que je pense incontestable, les dieux faibles, les rédacteurs de la Torah, ceux qui ont écrit la Torah. Bon, voilà, c'est vrai qu'ici on est dans le Beit HaMidrash où justement on entre de plus en plus dans la Torah et justement on n'en sort pas tellement. Et donc voilà, j'avoue, un petit mal-être par rapport à tout ça.
Oui, justement, mon livre est plein de. Enfin, mon livre est une explication de la Torah. Dans ce livre, je suis rentré très profondément dans la Torah, je l'ai travaillé longuement et. Je me réfère aussi beaucoup au Midrashim et un peu au Talmud également. Je veux dire, je n'ai pas abandonné l'étude, encore une fois. D'accord.
À un moment, vous avez dit, encore une fois, il faut sortir de la Torah pour comprendre. Donc c'est vrai que nous, on essaye de le comprendre.
Mais pour y revenir, oui, mais je pense que ça ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas. Il faut en sortir pour y revenir. Et quand on en sort et qu'on y revient, elle s'éclaire d'une autre façon. Alors, ce n'est pas dire que de toute façon, c'est la vérité. Bon, vous savez que dans les sages d'Israël disent que la Torah a 70 visages. 70, c'est un nombre générique désignant la multiplicité. Donc chaque verset de la Torah a 70 visages, c'est-à-dire qu'il y a une pure profusion de sens. Donc ce qu'il faut, c'est essayer d'ouvrir la lecture pour trouver de nouveaux sens. Oui, le nouveau sens ne périme pas les sens anciens. Il rajoute quelque chose de plus. Donc bon, j'ai la prétention un petit peu démesurée de rajouter quelque chose de plus. Et de toute façon, chaque lecteur ajoute quelque chose à la Torah. Chaque fois que quelqu'un lit la Torah, en la lisant et la commentant, on rajoute du sens. On participe à ces 70 visages. On lui donne un visage de plus. Alors moi, j'ai tenté de donner un visage de plus en suivant une voie différente de la voie traditionnelle de l'étude. Voilà. Mais non, sans la récuser. Sans la récuser.
C'est une lecture philosophique.
Je veux dire...
Alors, on va passer aux questions... Jacques Alimi.
Merci beaucoup, monsieur, pour cette belle exposé. C'est vrai que je suis pas du tout un étudiant d'un Beit HaMidrash. Je suis comme Alexandre, je suis blackboulé. Je me sens blackboulé sur mes convictions premières, qui étaient probablement faibles sur le plan religieux, en tout cas avec des certitudes qu'on m'avait ébranlé. Depuis Akhenaton, le premier monothéiste, jusqu'à Jésus, initié par Jésus, je suis blackboulé dans tous les sens. Moïse était-il un lépreux, était-il un habitu? S'il est un habitu, il semble être... Il semble être donc au 14e siècle avant notre ère. Donc il est deux siècles avant, apparemment, ce qui semble être raconté. Mais en tout cas, il serait donc contemporain d'Akhenaton.
Non, je ne pense pas, ça.
D'accord. Donc, je suis moi...
C'est ce que dit Freud. Hein.
Je suis moi à chercher, comme nous tous, des ancrages temporels, des ancrages archéologiques qu'on a tous du mal à trouver. On est dans nos propres convictions, avec notre degré de connaissance de la Torah. Mais je suis, moi, blackboulé, chamboulé. C'est vrai qu'en venant ici, je cherche une approche un peu religieuse. Et c'est que je suis là, je roule des yeux en me disant, bon, on parle de Jésus finalement. On parlait de Jésus avec talent. Mais bon, ça correspond tellement pas à ce que j'imagine de mon judaïsme que voilà, je ne fais qu'exprimer mon désarroi. Donc je vous le livre tel quel, sans grande approche, sans contrepartie de réponse biblique, puisque je ne suis pas assez compétent pour en parler. Voilà, j'espère que des gens ici seront plus compétents que moi pour apporter la contradiction.
Bah, j'espère que je ne vous ai pas choqué. Hein.
Non, c'est pas...
Blaboulé, c'est bien. Quand on dit l'autre, la philosophie commence avec l'étonnement. Moi, c'est des textes que... Bon, je suis un peu comme nous tous ici. J'ai commencé à apprendre l'hébreu à 7 ans pour faire ma bar mitzvah plus tard. Je ne suis pas un bon hébraïsant, hein, mais j'arrive à me débrouiller un petit peu quand même. Quoi. Voilà, bon, j'avais ma propre lecture aussi. J'étais comme nous tous. Au début, je croyais à tous ces récits. Plus tard, en grandissant, en lisant les historiens, j'ai commencé à croire que c'était des belles légendes, des belles histoires. Puis là, je me suis dit, bon, là, ça suffit, arrivé à cette époque de ma vie, il faut que je prenne le taureau par les cornes, si j'ose dire, ou le veau d'or, et que j'essaie de voir ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Or, pour savoir ce qui s'est vraiment passé, je suis désolé, bon, il y a des éléments qui manquent dans la Torah. Il y a des pièces manquantes du puzzle. Il faut donc essayer de voir ailleurs ces pièces manquantes pour les réincorporer dans le puzzle. Et ces pièces, je les ai trouvées dans l'archéologie, dans l'histoire. On les fait rentrer dans le puzzle et tout s'éclaire de manière remarquable. Et à l'arrivée, La Torah dit vrai. Beaucoup plus, en tout cas, beaucoup plus de vérité que ce que prétendent les historiens qui tiennent le haut du pavé aujourd'hui. Et pour qui c'est qu'un ensemble de fake news, de construction rétrospective, projetée dans un passé, etc. Non, ce que j'essaie de faire, c'est essayer de tester tout cela, hein, de chercher des attestations de ce récit. Alors ça a pris des formes qui m'ont surpris moi-même. Hein. Au début, je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver. C'est en cours de route que j'ai découvert cette hypothèse, l'existence de ces habirous, cette révolution israélite, tout ça. Bon, je ne m'attendais pas du tout à trouver ça au départ. Alors Moïse était-il un habirou? Ben, on n'en sait rien. Est-ce qu'il s'appelait vraiment Moïse? Ou est-ce que c'était un surnom? Moshe en égyptien signifie fils de. Ramsès, c'est Ra, Moshe, fils du dieu Ra. Est-ce que ça veut dire que Moïse était égyptien? C'est pas sûr non plus. On n'en sait rien. Simplement, ce que je pense avoir établi de manière difficilement contestable, c'est qu'il y a eu quelqu'un. Il y a eu quelqu'un qui a conduit cette révolution politique et religieuse et qui a instauré, qui a introduit en Canaan le culte d'un dieu nouveau. Hein, d'un dieu, bon, qui est Hachem et qui se présente avant tout comme un dieu libérateur. Voilà. Alors ce quelqu'un, bon, on peut l'appeler comme on veut, je veux dire, pourquoi ne pas l'appeler Moïse comme la tradition nous a, en lui donnant le nom que la tradition nous a légué, peu importe, enfin, moi je ne vois pas pour quelle raison on l'appellerait autrement. Était-il habirou? Était-il égyptien, comme le pensait Freud, à tort peut-être? Ou venait-il peut-être de Madian? C'est possible aussi, de Madian où bon, il y avait apparemment au nord de l'Arabie, à Madian, où donc Moshe se réfugie en fuyant l'Égypte, d'après le récit de la Torah. Bon, à Madian, il y avait des prêtres qu'on appelait des Lévites, en quelque sorte, qui adoraient un dieu que les Égyptiens appellent Irv. Bon, on a des traces archéologiques de tout ça. Effectivement, bon, quand dans le chant de Déborah, Déborah s'adresse à Hachem et dit « Hachem, quand tu es venu de Séir, quand tu es venu d'Édom, le ciel a ruisselé, etc. » Édom, Séir, Madian, c'est à peu près la même région. En tout cas, c'est hors de Canaan. Bon, notre Dieu est un Dieu arabe. On peut dire ça comme ça, pour choquer encore un peu plus les gens ici. C'est un Dieu qui vient d'ailleurs. C'est un Dieu étranger. Et un Dieu étranger, c'est aussi un Dieu qui est hospitalier envers les étrangers. Et d'abord, envers les esclaves en fuite, etc. Ça, c'est un point, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Mais moi, ça ne me dérange pas que notre Dieu soit un Dieu étranger. Si on étudie la mythologie de Canaan, on trouve aucune trace, on trouve des traces d'un Dieu appelé El. Bon, ça pose des problèmes intéressants. Son fils s'est appelé Baal ou Baal-Hadad ou Baal-Hadou. On trouve des déesses, Ashtaroth, Anat, etc. Il y a toute une pléiade de divinités, mais il n'y a pas de trace d'un dieu qui porte le nom du tétragramme, qui porte le nom d'Hachem. Donc les Cananéens ne vénéraient pas ce dieu. Ce dieu libérateur a donc été introduit du dehors à un moment donné. Et comme c'est un dieu qui se définit avant tout comme le libérateur des opprimés, moi, ça me paraît cohérent de penser qu'il a été introduit par quelqu'un qui a mené ou qui a accompagné cette révolution, cette insurrection des esclaves. Voilà. Moi, je trouve ça très bien que notre Dieu soit un Dieu libérateur et pas un Dieu qui sacralise le pouvoir des pharaons et des rois. Je veux dire, bon, ça apporte du nouveau dans l'histoire humaine. Ça apporte du nouveau. Et c'est important. Et ça explique toute une série d'aspects de l'éthique juive aussi. Non, enfin, voilà.
J'écoute et j'ai envie d'écouter la réponse de gens qui seront plus virés que moi en connaissance hébraïque et en Torah.
Bonjour Bernard. Merci pour votre exposé. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à dire tout ce que j'aimerais dire ou... moi, je comprends pas votre travail. Non, je m'explique. Quel est le but? Vous avez dit. J'ai été au Talmud Torah, j'ai fait ma bar mitzvah. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais. C'est quoi ces légendes? C'est quoi cette histoire? Il faut que j'aille voir. Mais pour vous, voir, c'est prouver. C'est... Attendez, je termine, je vais au bout de ce que je veux dire. C'est avoir une preuve tangible de l'existence, si tant est qu'on puisse parler comme ça, de Dieu. Et vous dites, on va aller dans les archives. Mais de quelle archive parle-t-on ? Vous parlez d'archives extérieures au judaïsme. Moi, si je veux savoir la généalogie de ma famille, je vais aller voir dans les archives de ma famille et je vais remonter à ma famille pour savoir ce qui a été dit et fait. Dans ce que vous dites, vous parlez de Torah en permanence, mais vous ne parlez que de Torah écrite. Vous ne parlez jamais, vous n'avez pas employé une seule fois le mot Torah orale. Vous citez des commentaires comme si on parlait des commentaires sans même les citer. Vous ne parlez pas de Midrashim, vous ne parlez pas de sources talmudiques. Réellement, réellement. Alors, excusez-moi, je trouve ça, c'est très émouvant en fait, je trouve, parce que c'est d'une certaine façon, c'est pas contre vous, mais je trouve que ça manque beaucoup d'humilité. C'est-à-dire que par rapport au travail de tous ces gens autour de nous qui ont produit un travail qui est d'une puissance dans une tradition d'une longue chaîne, on croit qu'on arrive, nous, sujet premier de mon histoire, je vais arriver et prendre ce qui est les archéologues dont on ne sait même pas réellement si c'est vrai ou pas. Vous dites c'est vrai, c'est irréfutable, mais ce n'est pas vrai, ça n'est pas irréfutable. Ça n'est pas irréfutable parce que c'est une interprétation même. Donc, on est là et on base et on va trouver. Et vous dites, à un moment donné, vous dites, vous ne parlez jamais de révélation. Vous ne parlez jamais, vous dites, à un moment donné, c'est pareil. Vous mettez toutes les religions dans le même sac. C'est-à-dire, ce qui compte, ce n'est pas tellement les analogies, c'est les différences. Vous dites toutes les religions, il y a eu Moïse, il y a eu Jésus, il y a eu... Mais nous, elle a été révélée à 600 000 personnes. Elle n'a pas été révélée à un type qui arrive comme Jésus ou Mahomet 7 siècles après ou Bouddha. Ça a été révélé à un peuple. Donc, tout ça me fait dire qu'il y a du biais. Il y a des biais dans l'étude. Il y a des biais dans la façon de procéder. Vous avez parlé d'un pulse qu'il faut reconstruire. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'au préalable, il y a un cadre. Et le but, c'est de trouver les pièces qui vont dans le cadre. Et autrement dit, c'est fermé. C'est-à-dire, au lieu de faire exploser le sens des versets à travers une tradition, tout le monde ne peut pas produire un ridouche comme ça. C'est pas parce qu'on donne une sorte de révélation sur une chose que c'est vrai. Tout l'intérêt, c'est le travail qu'on produit. C'est pas d'avoir une force tangible. Quel est l'intérêt ? C'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que vous, en fait, ce que vous dites, c'est que vous inventez votre propre religion. Je vais vous expliquer. Vous dites, il y a d'un côté les minimalistes, c'est vrai, ils sont très minimalistes. Il y a minimalistes en sens, ils sont minimalistes dans le sens, dans les sens. Il y a d'un côté les minimalistes, l'autre côté les gens de la tradition. Les minimalistes, ils disent une chose, les gens de la tradition, ils disent autre chose. Et vous reliez les deux. Vous dites, oui, ils n'ont pas tort, mais simplement, c'est une question de temps. C'est-à-dire, vous circonscrisez vous-même votre Torah. Vous faites votre Torah, au lieu de la sortir et d'être dans une transcendance, vous êtes dans un mouvement presque idolâtre. C'est-à-dire, vous fermez les choses et vous croyez à une chose qui est fermée. D'une partie d'un tout, vous en faites un tout. Et c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire que je suis, et à travers vous, c'est pas vous, monsieur, excusez-moi, c'est tout ce courant qui pense qu'on peut arriver et se servir de foutre en l'air, enfin de rentrer dedans sans apporter avec autant de sérieux, autant de poids, ce qu'a fait la tradition. Si on parle d'archives, alors on est sérieux et on tape et on va scoltiner le Midrash, le Talmud. Et ça, c'est sérieux. Entendons-nous bien, l'émotion que moi je mets là, ça n'a rien à voir avec vous, monsieur. Hein, on est bien d'accord. Et peut-être que mon émotion, elle est aussi par mon manque de mots pour arriver à ferrailler sur chaque chose. Et je trouve que je n'ai pas à ferrailler sur chaque point. Ce que j'essaye de mettre en exergue, c'est la méthodologie. est le but de cette méthodologie. Finalement, si l'idée, c'est de dire tout ça, c'est des légendes, mais cette légende, finalement, elle est pas mal par rapport aux autres légendes. Elle a apporté beaucoup de choses. Alors, si on va dans l'absurde comme ça, moi, je vais dire, moi, je pense, je me dis, bah, c'est un peuple asservi, il s'est libéré. Et ce peuple asservi qui s'est libéré va se coltiner une loi. Il est asservi, il va se libérer, il invente un dieu, il a inventé ce dieu.
Ah,
vous parlez jamais de révélation, excusez-moi.
J'ai jamais dit qu'on a inventé un dieu, je n'en sais rien.
Ah, c'est bizarre que quand même tout ce qu'on entend, c'est quand même les hommes qui ont produit ce que vous dites.
C'est jamais une bataille de personnes, hein. C'est juste non, l'enseignement.
Je suis très très heureux qu'on ait une controverse, parce qu'au fond, ça fait partie aussi de la tradition juive, hein, d'avoir des controverses. Bon, ce qui on ne trouve pas ça dans les autres religions, parce que vous parlez des similitudes et des différences. Quelque chose comme le Talmud, avec des rabbis qui se confrontent, qui s'engueulent, qui se contredisent, etc. Et finalement, bon, ça donne cette polyphonie extraordinaire. Ça, on ne trouve pas ça vraiment dans les autres religions, me semble-t-il. C'est vraiment un apport du judaïsme de pouvoir s'engueuler amicalement, qu'on vient de le faire ici.
Non,
voilà. Non, non, c'est important. Moi, je suis très heureux que cette controverse. Ça me permet de préciser un peu les choses. Bon, je ne veux pas vous... Bon, écoutez, je pense que vous n'avez pas lu le livre, parce que si vous aviez lu le livre, vous verrez que je me réfère constamment au Midrashim, essentiellement au Midrash Rabbah. Pourquoi celui-là plutôt que d'autres? Parce que j'ai eu un accès plus facile et parce que je le trouve très passionnant. Mais il y a de très nombreuses citations des Midrashim et aussi un peu moins peut-être du Talmud. Un peu moins, bon, ça m'a été reproché déjà. Mais bon, il y a plusieurs passages où je me réfère à différents traités du Talmud, surtout de Babylone et un peu de Jérusalem, grâce à l'aide d'amis érudits qui m'ont permis d'y voir plus clair sur ces questions-là. Bon. Donc non, là, ce que vous dites, excusez-moi, mais c'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai. Ici, j'ai dû faire un exposé d'une heure environ, donc j'étais à l'essentiel. Tout ce livre, c'est un travail de réécriture et de réinterprétation, de relecture de la Torah et de la tradition juive. Oui, mais si, je cite les Midrashim, je cite le Talmud. Je ne suis pas un karaïte, voilà. La Torah orale, elle compte. Je m'y réfère aussi dans ce livre. Donc bon, c'est parce que vous ne l'avez pas lu. Donc là, vous me faites un mauvais procès. D'accord.
Je parle de ce que vous avez dit.
Oui,
je
n'ai
pas entendu une seule fois le mot Torah orale.
Écoutez, parce qu'en une heure, une heure, ça passe très vite. Donc moi, j'étais à ce qui me paraissait le plus important et j'ai laissé beaucoup de choses de côté. Bon, je me réfère à plusieurs reprises à Rashi, je me réfère à toute une série d'auteurs, y compris aussi assez peu d'ailleurs, mais à des auteurs du hasidisme. Je connais cela et je m'y réfère et je m'y appuie et je le respecte. Bon, je n'ai pas eu le temps en une heure de développer ces points-là. Bon, par exemple, sur la question du bouc émissaire, je me suis appuyé sur le passage du traité Yoma du Talmud de Babylone, qui donne une interprétation très intéressante, qui semble différer en partie ou compléter en partie ce que dit le Vayikra, Lévitique. Voilà, j'ai fait le boulot. Il y a un passage aussi, j'ai utilisé Rashi pour comprendre ce très étonnant moment où, après avoir accompli le sacrifice, etc., bon, Moïse et les anciens d'Israël montent sur le mont Sinaï, et là, dit le texte, et ça c'est un passage hallucinant, ils voient le Dieu d'Israël, en pureté pareil à des pavés de saphir, et ils mangent et ils boivent en contemplant le Dieu, et contre eux, Elohim n'envoie pas sa main, etc. Alors je dis, ah bon, on peut donc voir un Dieu qui dit qu'on ne peut pas me voir sans mourir? Il y a quelque chose de curieux là. Ben, Rashi donne une interprétation qui est très belle, très intéressante, qui joue sur le terme l'évanime, les pavés. Il en fait une sorte d'écran qui réfléchit quelque chose. Et là, je développe des choses à partir de là. Donc bon, avant de m'attaquer comme ça, lisez mon livre. Vous verrez qu'il y a une immense... il y a toute une série de références au Midrashim et au Talmud. Et à Rashi et à d'autres auteurs. Voilà. Et aussi, à la fin, dans le tout dernier chapitre, j'essaie de réfléchir sur ce qui va advenir du nom, du Shem. Et donc là, j'ai fait même des références indirectes à la Kabbale, à travers Cholem et quelques autres. Et de toute façon, on ne peut pas parler du Messie sans parler de ce qu'on dit Cholem et d'autres auteurs. Donc voilà, j'ai fait le boulot. Mais en une heure, j'ai dû condenser, j'ai dû ramasser. Autrement, ça aurait été comme la nuit de Pessah. On serait réveillé le matin pour la prière du matin. Les rabbis, c'est le matin, il est en train de faire la prière. Il dit, ah zut, la nuit est passée. Non, on ne pouvait pas passer toute la nuit, malheureusement. Donc j'ai dit, voilà, désolé. Bon, non, j'en viens au fond, hein, j'en viens au fond. Vous me dites, ce qui compte, c'est les différences entre les religions et non pas les similitudes. Et vous m'accusez de mettre toutes les religions dans le même sac. Et vous dites, oui, le judaïsme était révélé à un peuple. Ben oui, bien sûr, j'arrête pas de dire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est précisément le caractère absolument singulier. Et ça, je l'ai dit quand même. Hein. Bon, ok. Ce qui m'intéresse, c'est le caractère absolument singulier de cette religion-là, qui est la nôtre. Hein, qui est, bon, pour les religions de cette époque-là, c'est la seule qui ne sacralise pas le pouvoir d'un roi, d'un pharaon ou d'un dignitaire en disant c'est le fils, c'est l'image du dieu, etc. C'est une religion qui part d'un mythe d'origine totalement différent de tous les mythes de toutes les religions du monde, à savoir l'histoire d'un peuple d'opprimés, d'un peuple d'esclaves qui brise les chaînes de la servitude et qui crée un monde...
Vous parlez de
mythe,
vous comprenez ? Vous êtes en train
un récit.
De parler des Grecs,
non, un récit.
C'est comme si vous parliez des
non,
Grecs.
Non, 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 non.
Mais vous parlez de mythe. C'est
écoutez, bon, l'Énéide, par exemple, fondement de l'histoire de Rome, bah, c'est un récit, c'est un récit qui parle d'exilés, etc. Mais celui qui est exilé, c'est un roi, enfin c'est un prince, c'est le fils du roi de Troie. Donc on est encore dans la sphère des monarques et des rois. Donc moi je pense que le récit fondateur du judaïsme, à savoir le récit de Shemot, le récit de l'Exode, c'est un récit qui diffère de tous les autres récits, si le terme mythe vous gêne, c'est un récit qui diffère de tous les autres récits de toutes les religions de cette époque-là et des autres pays. Il y a donc une singularité profonde, radicale du judaïsme, qui est précisément bon, la dimension du peuple. Hein, que cette loi a été révélée à un peuple et que le Dieu qui se présente à lui se présente non pas comme le créateur du monde ou comme le père de tous les hommes ou comme le roi de l'univers, il se présente comme le libérateur, celui qui nous a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage, la maison de servitude. Et ça, c'est une singularité absolue dans l'histoire humaine. Et c'est très important. Donc oui, c'est une religion totalement différente des autres. Je me suis permis de citer en passant Jésus de Nazareth et ses disciples, comme je me suis permis de parler du Bouddha, mais ce n'est pas la même chose. Hein, tout mon travail vise à marquer la singularité forte du judaïsme.
Par un homme, qu'une religion est rêvée. Vous avez parlé, et vous avez mis en analogie Moïse
quand même.
Bouddha,
excusez-moi, c'est pas le peuple tout entier qui est monté sur le rêve et qui a vu un buisson qui brûle. C'est un homme.
Oui.
Et c'est pas le peuple tout entier qui est monté sur le Sinaï et qui a reçu tout entier comme ça la loi, la Torah. C'est un homme,
oui,
c'est Moïse.
Oui,
et c'est ça qui m'intéresse.
D'accord. Façon, il me semble pas que le veau d'or, mais je parle sous les mecs qui veulent dire une chose, que le veau d'or soit une façon de matérialiser Hachem.
C'est ce que
je crois pas que ça soit ça.
Ouais, mais... faut des voir. Là, il faut confronter différentes versions de la Torah. Dans de certaines versions, celle des 70, Aaron dit « Demain, faites pour Hachem ». Et donc, le veau d'or, c'est une figure de Hachem.
Non, il me semble que dans les
ça
les,
peut
dans
discuter, les ça peut discuter.
Chose,
en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est pas ça.
Ça.
Non, mais ce qui m'intéresse, c'est que les Égyptiens appelaient veau d'or le pharaon. Ça, c'est intéressant. Et ça, je suis désolé. Le Talmud ne le dit pas. Ni les Midrashim, ni la Torah. Pour le savoir, il faut s'intéresser à autre chose. Il faut effectivement ouvrir l'archive. Ça ne veut pas dire abandonner notre tradition.
Monsieur,
ça veut dire l'éclairer
certain,
par autre chose. Et donc s'intéresser... Et donc... Ah, certains. Enfin, ou alors, trouvez-moi. Écoutez, le Talmud, il y a 40 volumes. C'est un océan... Comme disait Lévinas, le Talmud est océanique. Bon, les Midrashim, c'est encore plus long. Écoutez, si quelqu'un ici réussit à me trouver une citation... d'un texte de la tradition disant que le veau d'or, c'est le nom du pharaon, je serais heureux, très heureux. Ça apporterait une pièce de plus à mon puzzle, si vous voulez. Simplement, bon, moi, simplement, bêtement, j'étais en bibliothèque, j'ai lu différents livres sur la religion royale des Égyptiens, et j'apprends avec stupeur, vraiment avec stupeur, que les Égyptiens adoraient leur pharaon en l'appelant le veau d'or.
C'est très possible.
Et tiens,
c'est très possible. Possible, mais dire que le veau d'or, c'est la façon de parler de Dieu, c'est pas la même chose.
Ah, j'ai pas dit ça. Le texte dit. Hein, bon, ça, on peut laisser ça de côté. Ce qui m'intéresse, c'est le sens du veau d'or. Que les Égyptiens appelaient veau d'or le pharaon, ça éclaire d'une autre manière ce récit. Ça apporte, me semble-t-il, une couche de sens de plus. S'il y a un midrash qui le dit, tant mieux. Je suis donc en accord avec ce midrash. S'il n'y en a pas, tant pis. C'est moi qui apporte un sens différent. Ok ? Je veux dire, bon, vous trouvez peut-être un orgueil démesuré. Bon, ben, admettons, j'assume. Alors, vous me dites, problème de méthodologie, quel est votre but? Je laisse de côté tout ce que vous me dites que, quand je fais ma propre Torah, une idolâtrie, etc. Je laisse ça de côté. Il faut aller au fond des choses. Problème de méthodologie, quel est le but? Ben, si vous voulez, je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, bon, un des buts de ce livre, un des buts importants, c'est de se mesurer avec les minimalistes aussi sur leur terrain. Au début, j'avais commencé ce livre, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, en me disant « je vais les ignorer, ces gens-là. Je ne les lirai pas, je ne veux pas les lire, je reste dans la tradition juive. » Puis je me suis dit « bon, ok, bon, nous avons ici un journaliste du Monde, ben, il suffit d'ouvrir le Monde des religions, ou d'écouter aussi des émissions sur Arte, etc. Ceux qui ont la parole, massivement, majoritairement, ce ne sont pas des défenseurs de notre tradition, ce sont des historiens minimalistes et des archéologues minimalistes. » Ce qu'ils disent passe aujourd'hui comme une vérité incontestable, absolue, irréfutable, à savoir que toute notre histoire, c'est des fake news, c'est des reconstructions rétrospectives. Alors je dis, bon, ok, il y a un défi, il y a un challenge. Puisqu'ils se situent sur le terrain de l'histoire et de l'archéologie, je vais aller sur leur terrain, hein, leur dire, ah ben non, mais les midrashim ne disent pas ce que vous dites. Ça, ils s'en foutent complètement. Pour eux, tout ça, c'est du bavardage, c'est l'idéologie, c'est de la religion. Non, alors je vais sortir, faire un petit pas de côté, je vais aller sur leur terrain, voir ce que nous apprend vraiment l'archéologie et l'histoire. Et ça, mon hypothèse, c'est que ça nous révèle quelque chose de très intéressant, hein, qui réfute en grande partie les arguments des minimalistes. Voilà. Et qui montre qu'il y a de la vérité, comme dit Freud, qu'il y a un noyau de vérité dans le récit de la Torah. Et ça me paraît pas totalement inutile de le dire. Ah oui, il y a un point important. Vous dites que je présente mon interprétation comme irréfutable. Non, ce que j'ai dit, c'est que certaines des découvertes de l'archéologie apportent des faits incontestables. Bon, certains minimalistes les plus radicaux nient l'existence d'un roi David. Bah, l'archéologie a démontré, il y a une vingtaine d'années, en exhumant la stèle du roi d'Aram, bon, qu'il existait quelque chose comme la maison de David. Et c'était reconnu par une source extra-biblique. Donc voilà, un pion qui saute sur l'échiquier, ça les fait reculer.
Bien même, voilà. Monsieur, cet argument, donc, voilà. Vous pensez que ça donne une légitime, une vérité au fait qu'il y a eu le roi David? Il y aurait une maison de David, ça ne dit rien, ça ne veut pas dire que c'est le même David. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui a écrit les psaumes. Ça ne veut pas dire.
Ça veut pas dire qu'il jouait de la harpe. Ça ne veut pas dire qu'il jouait de la harpe. Ça ne veut pas dire qu'il avait ce rapport qu'on décrit avec le roi Shaoul. Ça veut dire qu'il a existé.
Oui, d'accord.
Et ça, c'est intéressant.
Oui.
C'est intéressant. Il faut le dire, à une époque où beaucoup d'historiens qui tiennent le haut du pavé estiment que c'est purement des fictions, des fake news. Mais je veux dire, non, attendez, je veux dire quelque chose. L'archéologie permet d'établir certaines vérités incontestables. Il y a eu une révolte, une insurrection des Abirous qui s'est déroulée là en Canaan, occupée par l'Égypte, entre le 14e et le 12e siècle. Ça, on a des preuves, on a des textes, c'est incontestable. Malheureusement, la Torah n'en parle pas. C'est dommage. Il faut se demander pourquoi la Torah ne parle pas de cela. Canaan était occupé par les Égyptiens pendant 4 ou 5 siècles. La Torah n'en parle pas non plus. C'est dommage. Pourquoi est-ce qu'elle n'en parle pas? C'est des vraies questions qui surgissent à ce moment-là. Simplement, on ne peut pas se contenter de fermer les yeux, de mettre la tête dans le sable et d'ignorer cela. Ce sont des faits. Alors, ça dit, ce que nous apporte l'archéologie ou ce que nous apporte l'histoire, ce sont des faits qu'il faut interpréter. Et là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous.
Non, mais moi,
je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut interpréter. Hein, c'est des découvertes qu'il faut interpréter. Par exemple, j'ai fait allusion à cette archéologue israélienne qui a fait les fouilles à Hatzor avec un autre archéologue appelé Bentor. Hein, deux archéologues israéliens récemment qui ont exhumé que Hatzor n'a pas été ravagé par une invasion extérieure, comme le croyaient les historiens et comme le prétend la Torah, livre de Josué, que tout semble prouver plutôt que Hatzor a été traversé par une sorte de révolution intérieure, hein, où le peuple s'est soulevé contre les prêtres et contre le roi, et contre les occupants égyptiens. C'est intéressant, ça apporte quelque chose. Le problème, c'est qu'il y a deux archéologues qui co-dirigeaient les fouilles. Cet archéologue-là, dont j'ai oublié le nom, la femme, elle défend cette thèse-là. Son collègue, qui s'appelle Bentor, dit « pas du tout, c'est l'armée de Josué, votre interprétation, ma chère collègue, est fausse ». Ok, c'est de la science, c'est-à-dire que c'est des interprétations. C'est des gens qui discutent, qu'on discute dans le Talmud d'ailleurs aussi, et qui proposent différentes interprétations de ce qu'ils ont découvert. Donc tout ce passage-là, dans mon livre, lisez-le, je vous le confie, c'est un bon livre, hein, il est actuellement il est en rupture de stock. Mais il va être réédité, je vois l'éditeur demain, je vais le dire réédité. Mais attendez, non, excusez-moi finir. Ce que je veux dire, c'est que j'ai appelé cette partie-là, j'ai sous-titré « roman historique ». Bon, c'est un petit clin d'œil à Freud. Freud qui parlait de son Moïse comme d'un roman historique. Je veux dire par là qu'on ne fait que proposer des interprétations. Elles sont réfutables. Et surtout si on s'appuie sur l'archéologie. Parce que les textes, on peut les commenter à l'infini. Mais lorsqu'on s'appuie sur des faits, lorsqu'on prétend s'appuyer sur des découvertes précises, à ce moment-là, à chaque instant, on peut être réfuté par une nouvelle découverte. Il se peut très bien que demain matin, quelque part dans le désert du Negev ou dans le Sinaï ou ailleurs, un archéologue exhume une stèle ou un bout de poterie, une inscription, quelque chose qui prouve que toute mon hypothèse est fausse. Et que bon, Moïse venait d'ailleurs, ou qu'il n'a pas existé, ou qu'il s'appelait autrement, ou que tout ça s'est passé autrement. Ok, à ce moment-là, mon roman historique était qu'un roman, et je laisserai quelqu'un d'autre écrire un nouveau livre. Je prends le risque. Parce que lorsqu'on se situe sur le terrain des faits historiques, comme j'ai tenté de le faire, on s'expose au risque d'être réfuté. Donc quand vous dites que je me pose comme une sorte de démiurge qui propose une vérité incontestable, irréfutable, je dis non, c'est tout le contraire. Tout le contraire. Je propose un roman historique.
Vous êtes dans la lignée de la critique biblique.
Pas seulement.
Vous utilisez l'archéologie comme outil de la critique biblique en laissant tomber tout ce qui est de l'ordre de l'archive et d'une tradition juive.
Non.
En pensant que vous avez fait le tour, comme vous dites, vous avez produit.
Non.
Et vous dites... J'ai fait ce travail-là, je le connais, je vais éclairer par autre chose, mais je n'ai pas envie que ça soit...
Non, je ne laisse pas tomber le Talmud, je ne laisse pas tomber le Midrashim, et je ne laisse pas tomber Rashi, je ne les laisse pas tomber, je les cite, je les discute, j'en parle.
Okay. Outil que ce qui existe depuis déjà...
On va faire tourner un peu la parole. On va faire tourner la parole. Enfin, bon, voilà. Quitte à revenir, on fait tourner un petit peu la parole. J'essaie de prendre les questions dans l'ordre, excusez-moi, je sais qu'il y en a pas mal.
D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir fait le déplacement depuis Strasbourg et de nous avoir présenté votre travail. Et je remercie Alexandre d'avoir pris le risque de vous inviter, comme il prend des risques souvent d'inviter des gens dont nous ne savons pas quelle va être l'approche. J'étais intéressé quand il a présenté votre venue. J'étais intéressé par le fait que vous étiez philosophe, que vous étiez le responsable du Parlement des philosophes ou de quelque chose qui s'appelle comme ça. Mais j'ai été très intéressé par un livre que vous avez produit sur le djihadisme et le sacrifice, parce que c'est de très grande actualité. Et je me suis dit, dans la période que nous traversons, la question que nous nous posons dans ce séminaire depuis le début, qui est celle de savoir la politique juive en exil, comment elle bénéficie, si je puis dire, du double regard, celui de la tradition la plus, si je puis dire, intrinsèque et séparée de tout le reste, et celui de l'université et de la recherche. Et donc, j'ai pensé qu'en philosophe, vous alliez nous apporter un éclairage de philosophe. En plus, le fait que vous produisiez un livre sur Moïse, un leader juif comme on en manque terriblement à certaines périodes de l'histoire comme aujourd'hui, je me suis attendu à ce que ce soit plutôt là. Donc, vous nous avez fait une leçon très intéressante. Enfin, j'ai déjà lu, entendu des rapprochements entre la tradition juive, la critique biblique, et je vois très bien que ce n'est pas exactement dans ce conflit que vous êtes, mais c'est, disons, la remarque qui a été faite est justifiée. Mais je dirais, ce débat... ce n'est pas le lieu ici, voilà. Nous, et je voudrais que vous continuiez à vous intéresser à notre travail, parce que je pense que vous pouvez y contribuer, le travail que nous faisons est centré sur la question de la politique juive en exil. Nous ne voulons pas résoudre les problèmes de la recherche fondamentale, de la critique biblique. Tout ça, ce sont d'autres questions. Ça n'est même pas un bête midrash ici, parce que, comme vous voyez, il y a des gens de toutes les couleurs sur le plan de leur connaissance sens, de leur approche du texte, etc. C'est la rencontre, c'est la diversité de la rencontre qui fait tout l'intérêt de ce séminaire. Donc, juste la question, peut-être vous pouvez y répondre très simplement. Quelle est votre approche de la manière dont notre génération peut faire de cette rencontre entre la tradition juive, la tradition du texte juif, et puis toute la connaissance, puisque les juifs sont des champions de la connaissance universitaire, etc. Qu'est-ce que nous pouvons faire de ça aujourd'hui pour, si je puis dire, avancer dans une histoire qui a l'air de nouveau d'être un peu bloquée? Voilà, votre avis, simplement, sans preuve scientifique. Je voudrais écouter le philosophe avec un peu de distance de tout ça.
Non, mais attendez, je vous remercie beaucoup, mais c'est un peu énorme ce que vous demandez là. Enfin, vous voulez que je propose quoi? Enfin, un programme politique pour Israël? Comment sortir de la situation atroce dans laquelle nous a plongé le pogrom du 7 octobre? Je me sens pas. Alors là, pour le coup, on m'a reproché d'être immodeste, mais j'aurais pas la prétention de dire ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour s'en sortir de cette catastrophe auquel on est confronté. Quoi, je crois que c'est pas à moi de le faire. Hein. Je suis pas général de Tsahal. Je suis pas homme politique israélien. Je peux pas vous répondre. Quoi, c'est à nous. Bon, chacun a son opinion à ce sujet. On est tous dans la difficulté. On est tous un peu dans le brouillard. Ce pogrom nous a tous bouleversés, horrifiés au dernier degré. C'est très clair parce que ça a rappelé des événements tout à fait tragiques de notre histoire. J'ai fait une tribune dans Le Monde d'ailleurs juste après, enfin 10 jours plus tard, pour essayer de critiquer durement certains politiciens français et étrangers qui ont présenté le Hamas comme un mouvement de résistance. Et j'ai rappelé que chez les nazis aussi, il y avait une tentative de résister dans les années 20 à l'occupation française de la Ruhr, et que le mot résistance ne pouvait pas être brandi comme un totem permettant d'excuser tous les crimes. Donc j'ai tenté de donner ma voix, de dire quelque chose. Bon, c'est une tribune que Le Monde a eu l'obligeance de publier. Et bon, voilà, je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Hein. À l'époque, j'étais horrifié et furieux par les déclarations de certains hommes politiques de l'extrême gauche, vous voyez très bien qui je veux dire, qui parlaient du Hamas comme mouvement de résistance, et qui donc justifiaient les atrocités commises par le Hamas, ou voulaient renvoyer dos à dos de Tsahal et le Hamas, ça me paraissait abject. Donc je suis intervenu là-dessus pour dire ça. Voilà, peut-être pas en tant que philosophe, en tant que moi-même, moi, Jacob Rogozinski, parce que je pensais que j'avais quelque chose à dire là-dessus, sur ce point précis. Alors pour le reste, je sais pas, bon, on est tous dans le brouillard, on est tous dans la difficulté. Il y a une nouvelle période de notre histoire qui s'ouvre et qui est terrifiante. Je veux dire, c'est vrai qu'Israël s'est construit, Eretz Israël s'est construit comme le refuge pour les juifs persécutés. Et comme le disait un autre philosophe dans Le Monde aussi, c'est dans Libération. Désolé, Francis Wolff, un très beau texte de Francis Wolff que je vous renvoie, tout à fait magnifique, dit bon, ben, je pense que Kersenty et Trump disent les mêmes choses. Hein, l'État qui s'était présenté comme le refuge possible pour les juifs persécutés est devenu aujourd'hui l'un des endroits les plus dangereux pour les juifs. C'est vrai que ça chamboule tout, ça pose un problème de fond. Hein, ça pose un problème de fond, ça oblige à réfléchir sur beaucoup de choses. Mais j'ai pas d'éléments. Je suis peut-être immodeste et bouffi d'orgueil, comme l'a semblé le dire, mais je n'aurais pas la prétention extrême de vous détailler maintenant un programme sur ce qu'il faut faire. C'est sûr qu'on aurait besoin d'un nouveau Moïse, ça c'est sûr, ça serait bien. Ou même, on aurait besoin d'une figure prophétique. Une figure prophétique, c'est aussi une figure qui peut s'arracher à l'opinion commune pour essayer de forcer les choses et d'avancer dans une certaine direction. Hein, c'est quelqu'un, je crois que c'est Ézéchiel là qui toque. Hachem lui dit va nu dans les rues de Jérusalem, couvre-toi de chaînes et promène-toi comme un esclave ainsi. Les gens pensent, mais il est fou ce mec, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce la chute prochaine de Jérusalem et l'asservissement de son peuple. Hachem dit, je crois que c'est au prophète Oshaya à Osée, va, épouse une prostituée, et quand tu auras un fils, appelle-le Lo-Ami, pas mon peuple, parce que vous n'êtes plus mon peuple, je ne suis plus votre Dieu. Bon, c'est ça un prophète, c'est quelqu'un qui va à l'encontre hein, de toutes les traditions, de toutes les convenances, de toutes les normes, de toutes les opinions, quelqu'un qui choque, qui bouleverse. On aurait grand besoin de prophètes en Israël, on aurait grand besoin de nouveaux Moïse. Alors où sont-ils, quand vont-ils venir? Ça, c'est une vraie question. Là-dessus, je ne peux que partager, vous parlez de désarroi tout à l'heure, je ne peux que partager notre désarroi à tous. On est tous dans le désarroi depuis le 7 octobre, très clairement. Voilà, enfin, je ne peux pas en dire plus.
Je suis plus stiqué. Alors.
C'est gentil.
Est-ce qu'on fait question-réponse ou question-réponse?
Comme tu veux.
Ah d'accord, c'est bon.
Comment je fais? Okay. Bah, merci beaucoup d'abord pour votre exposé que j'ai trouvé très intéressant. J'ai été très intéressée par l'idée d'un déplacement temporel, d'une libération temporelle qui aurait été transposée dans un récit en libération géographique, on va dire, spatiale. Est-ce que vous avez des éléments sur les raisons pour lesquelles il y aurait eu cette transposition ?
Oui, ça c'est une vraie question. Non, c'est une question de fond, je vous remercie vraiment. Bon, par parenthèse, on peut penser aussi qu'il y a eu une migration spatiale. Simplement, elle n'a certainement pas emmené 600 000 hommes, leurs femmes, leurs enfants, etc. Parce que ça, je suis désolé, les archives égyptiennes l'auraient noté, certainement. Un tel traumatisme historique, il y aurait eu des traces. Il n'y en a pas. Donc ça n'a pas eu lieu comme ça. Là, bon, désolé, là, la Torah dit quelque chose qui n'est pas tout à fait exact. Mais on peut très bien imaginer que dans cette époque de crise, où le pouvoir s'effondre, les cités de Canaan sont en train de brûler, l'Empire hittite s'effondre, l'Égypte rentre dans une très profonde crise intérieure qui l'oblige à évacuer Canaan, qu'elle occupait depuis et qu'elle colonisait férocement depuis 4 ou 5 siècles. On peut imaginer que ça donnait l'occasion à des esclaves, des gens qui étaient retenus comme esclaves en Égypte, de s'enfuir et d'aller en Canaan. On sait que les pharaons déportaient massivement. Un pharaon se vante d'avoir déporté 100 000 Cananéens à la suite d'une rébellion pour les faire travailler comme esclaves en Égypte. Bon, il y avait effectivement des Cananéens, peut-être aussi des rebelles à Abirou, qui ont été déportés en Égypte et qui travaillaient comme esclaves. Et on peut très bien imaginer qu'à l'occasion de ces grands bouleversements, de cette grave crise, certains d'entre eux, des petits groupes, aient réussi à s'échapper, à traverser le désert et à rentrer en Canaan. On peut même imaginer que parmi eux, il y aurait eu un inspiré appelé Moïse qui portait avec lui un dieu nouveau. Pourquoi pas? C'est possible. Hein, je n'en sais rien. Là, on n'a pas de traces. Mais on peut l'imaginer sans aucun problème. À ce moment-là, il faudrait se demander pourquoi cette version-là a fini par s'imposer au détriment de ce qui semble s'être réellement passé. C'est une vraie question. C'est une question difficile, très difficile. Hein. Bon, je peux que mettre une hypothèse, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Elle va sûrement faire protester certains d'entre vous. Hein. Bon, l'idée qu'il y avait un peuple qui était en Canaan depuis l'époque d'Abraham, qui aurait émigré tout entier en Égypte du temps de Jacob et de Joseph, qui aurait été asservi en Égypte plus tard et qui serait revenu dans sa patrie natale, c'est un récit extrêmement cohérent qui insiste sur deux choses. Il y a un peuple, homogène, ethniquement homogène, la semence d'Abraham, et ce peuple, il a une terre qui est à lui. Et là, on va retrouver des choses intéressantes qui consonnent un peu avec l'actualité. Bon, ça a quelque chose d'un récit de légitimation, de justification. Nous sommes un peuple et nous avons un territoire à nous qui était promis à Abraham par notre Dieu. Si on s'approche de ce qui, à mon avis, s'est plutôt passé, les choses sont beaucoup moins claires, beaucoup moins claires. Il n'est pas certain du tout qu'on ait affaire à un peuple éthiquement un, mais on a plutôt une division au sein d'un peuple. Ce peuple, c'est le peuple Canaan. Il y a une scission, il y a une division dans ce peuple. Entre d'un côté, les nobles, les rois, les riches, les puissants, qui sont aussi des collabos de l'occupant égyptien. Et l'occupation égyptienne était féroce, prédatrice. Très cruel. Bon, il y a donc les collabos d'un côté, puis il y a les résistants. Excusez-moi de cette analogie un peu forcée. Parmi ces résistants, il y a sur la loi qu'on appelle des Habirou. Il y a peut-être d'autres éléments, peut-être des dissidents religieux, ce qu'on appelait Israël, peut-être. Il y a peut-être des éléments venant de Madian. On ne sait pas trop, mais en tout cas, c'était certainement pas un peuple unique et homogène, parce que le peuple
notre peuple est né d'une scission, est né d'une cassure dans le peuple Canaan, où un peuple s'est constitué en rejetant hors de lui les riches, les puissants et les collabos du pharaon. Bon, donc c'est une histoire différente. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un récit qui renvoie à une époque où les rebelles tuaient des rois comme des chiens. C'est écrit dans les textes de l'époque. Hein, bon, c'est certain que les scribes qui étaient au service des rois d'Israël et de Juda, je pense qu'ils auraient eu des gros ennuis s'ils avaient raconté l'histoire telle qu'elle. Hein, les rois n'aiment pas des histoires où on tue les rois comme des chiens. Ils n'aiment pas ça. Bon. Donc on peut estimer que ça a pu faire pression hein, pour... raconter l'histoire d'une manière différente, pour la rendre plus acceptable à la domination des rois. Bon, moi j'ai essayé de rattacher ça aussi à la politique de l'exil, bon, pas seulement parce que c'est un thème imposé, mais parce que c'est très intéressant. Moi je pense que la figure de Moïse a été réactivée, qu'elle a retrouvé une nouvelle vigueur, une nouvelle force, hein, parce que ça se rattachait à la situation des exilés de Babylone, et que donc ils avaient besoin de penser qu'il y avait eu autrefois un premier exil, donc un exil spatial, pour le coup, dans un pays étranger, et un sauveur, un libérateur était venu, qu'ils en avaient délivré, et donc un nouveau libérateur allait venir, un second Moïse, qu'on commence à appeler Machiar, hein, le Messie, hein, qui allait les ramener de ce second exil. Là, on avait affaire à un vrai exil. Ils étaient vraiment ailleurs, spatialement. Ils étaient à Babylone et plus à Jérusalem. Et donc, bon, on peut comprendre que c'est poussé à reconstruire le récit dans le sens d'un premier exil en Égypte. Alors, dans mon hypothèse, ce que le texte appelle l'Égypte, Mitzrayim, c'est Canaan sous la férule du pharaon, sous la domination du pharaon et de ses collabos. Et la terre promise de Canaan, c'est le même pays une fois que les résistants ont viré les collabos. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses.
Merci beaucoup.
C'est des hypothèses.
Je vais laisser Hergé Drambert, parce que Nicolas devra partir, donc je prends sa question.
Excusez-moi. Moi, je voulais aussi vous remercier pour votre exposé. Alors, mes questions, elles portent plutôt sur l'exposé que sur le livre, qui, évidemment, permet des explications plus subtiles. Moi, je fais partie des gens qui pensent que le judaïsme traditionnel et l'étude peut se confronter à la critique biblique sans peur. D'ailleurs, beaucoup l'ont fait. Je ne sais pas s'ils vous ont inspiré toute la tradition allemande, hein, puisque vous êtes à Strasbourg, Shimshon Raphaël Hirsch, Benno Jacob ont abondamment répondu à Breuer et d'autres. Donc, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Je trouve que votre opposition au minimalisme, que je partage, parce que le minimalisme est lu beaucoup, et notamment dans mon journal, mais ailleurs, comme parole d'évangile, si j'ose dire, donc il correspond à une croyance de la modernité, sûrement, mais peu importe, est un petit peu minimaliste. Parce que moi, il me semble que j'ai trouvé déjà chez Römer, etc., cette idée de la... Et chez les Américains, cette idée de la révolte interne à Canaan, etc. Donc c'est une position minimaliste, quand même. Vous n'en sortez pas tout à fait, me semble-t-il, assez nettement. Et pour aller très vite, sur la question de la vérité, donc pour moi, elle est importante. Il me semble aussi que la vérité du texte de la Torah aussi, elle est centrée moins autour du récit, la vérité d'un récit, mais autour de la vérité de ce qu'on étudie beaucoup, nous, c'est la halakha, en fait. C'est ça l'essentiel du contenu de la Torah. Alors cette vérité-là, elle me paraît un petit peu absente de votre lecture, pas totalement absente, mais disons que c'est quand même l'essentiel. Hein, si on voit ne serait-ce que les cinq livres de la Torah, bah, l'essentiel, ce sont des halachot que discute le Talmud, etc. Donc je néglige le Midrash ou la Haggadah, bien sûr, bah, qui sont autant d'approfondissements de la halakha, comme le dit le Rav Grunstein, voilà. Alors je ne sais pas comment vous liriez par rapport à cette vision de la Torah votre thèse. Et puis qu'est-ce que vous faites, puisque vous avez un propos politique et qu'on est effectivement, comme l'a rappelé Jo, dans l'étude de la politique juive en exil, qu'est-ce que vous faites des éléments qui contredisent votre construction contramythique de la Torah, notamment toutes les parties, alors qui sont plutôt dans le nard pro-égyptienne, assez étonnante, où l'Égypte joue un rôle presque positif, comme presque dans la Haftara qu'on a lue samedi dernier, là, chez Ézéchiel, ou également le fait que, au fond, la Torah, et ça me permet de faire une transition avec ce qui sera mon propre propos, la Torah n'abolit pas finalement l'esclavage, au contraire, dans Mishpatim, elle organise, on peut dire, l'esclavage des Hébreux, puisque l'esclavage des autres va de soi, comme dans toutes les sociétés antiques. Voilà, je voulais juste faire ces quelques réactions à votre propos que j'ai trouvé par ailleurs passionnant.
Par un certain Norman Gottwald dans un gros livre qui s'appelle The Tribes of Yahweh. Bon. Donc ça, effectivement, ça a déjà été formulé, et donc je cite ses auteurs. Hein. Et même l'hypothèse aussi que cette personne tout à l'heure a évoquée, qu'en fait ce qui apparaît dans la Torah comme un déplacement spatial aurait été en fait un mouvement temporel. C'était aussi, je cite un autre archéologue israélien, Nahaman, hein, qui développe la même idée. Bon voilà, j'ai pris des éléments à droite et à gauche pour nourrir mon propos, et c'est les pièces manquantes du puzzle que j'essaie d'ajointer. Hein. Donc oui. Alors oui, sur que faire des éléments qui contredisent la construction, notamment le fait que la Torah n'abolit pas l'esclavage. Alors oui, elle l'abolit pas, c'est un fait. Peut-être parce qu'à cette époque-là, c'était impossible et impensable, parce que tout le mode de production reposait sur l'esclavage. Cependant, elle apporte toute une série de correctifs et d'éléments très intéressants qui... Comment ?
Elle abolit bien le sacrifice.
C'est vrai, mais une société était, on avait une société qui était viable à cette époque-là sans sacrifice humain. Mais est-ce qu'elle était viable sans esclaves ? Je ne suis pas certain que ce soit possible. Néanmoins, le sort des esclaves est tout à fait transformé. Parce qu'il y a, dans Vaïkra, dans Lévitique, il y a des prescriptions, là on parle dans la Halakha, effectivement, des prescriptions tout à fait intéressantes, hein, extrêmement riches. Par exemple, au bout de 7 ans, l'esclave doit être affranchi. Bon. Alors, effectivement, d'après les historiens, les souverains de Babylone affranchissaient aussi les esclaves, mais c'est selon le bon vouloir du prince. Lors du couronnement du roi, il décidait que les esclaves seraient affranchis. Là, non, là, c'est pas le bon vouloir du roi. D'abord, il n'y a pas de droit dans cette société-là, il n'y a pas d'État, pas de droit. Mais c'est une obligation de la Torah, hein, d'affranchir tous les 7 ans les esclaves. Et ça, il me semble que c'est très nouveau dans tout le Moyen-Orient antique et dans toute l'Antiquité. Rien de tel chez les Grecs, rien de tel chez les Romains, rien de tel dans aucune des sociétés connues. Et il y a même un passage très étonnant dans lequel il dit, si l'esclave dit, c'est dans Vaïkra, dans Lévitique, si l'esclave dit, non, je suis attaché à mon maître, je l'aime trop, je ne veux pas le quitter, à ce moment-là, le maître doit lui percer l'oreille par un poinçon et l'attacher à la porte. Et très étonnant, ça. J'ai cherché un peu dans les Midrashim s'il y avait quelque chose qui commentait ça. Alors, finalement, l'explication est relativement simple. C'est encore une fois une critique de la servitude volontaire. C'est-à-dire, c'est un récit qui est un récit d'émancipation. Un récit d'émancipation des asservis. C'est le noyau fondamental, je pense, de la Torah. Bon, lorsqu'il y a quelqu'un qui est tellement attaché à sa servitude qu'il refuse d'être affranchi, il mérite d'être attaché physiquement à la porte de son maître qu'il aurait dû franchir, en fait, en homme libre. Donc ça va dans le même sens que la critique des Hébreux dans le désert qui disent « Ah, qu'est-ce qu'on était bien, qu'on était esclaves en Égypte, etc. » C'est un fil rouge qui traverse la Torah, qui consonne aussi avec la critique féroce de la royauté qu'on trouve dans le livre de Samuel, quand Samuel fait un portrait vraiment cauchemardesque de l'oppression sous la royauté, quand le peuple demande un roi. Donc ça a du sens. Il y a également le fait aussi que souvent les esclaves à l'époque étaient esclaves parce qu'ils s'étaient endettés. Donc il y a la question de la dette. Des paysans endettés devaient se vendre comme esclaves ou vendre leurs enfants comme esclaves. Alors que nous prescrit la Torah, très clairement il est dit, hein, lorsque ton frère s'est endetté, tu ne le feras pas de lui un esclave. Il restera un homme libre. Hein, aucun de vous ne sera esclave, car je vous ai libéré d'Égypte. Je cite un peu pour mémoire Vaïkra. Donc il y a là quelque chose qui est très intéressant, qui va dans le sens de... À mon avis, ça ne contredit pas ma construction. Bon, autre chose également. Dans toute l'histoire de l'humanité, les maîtres d'esclaves redoutent avant tout une chose, c'est que les esclaves s'enfuient. Et il prévoit des châtiments abominables pour punir les esclaves fugitifs. Bon, à Rome, c'était la croix, la crucifixion. Bon, le Code noir promulgué au XVIIe siècle par le roi de France, exactement par Colbert sous Louis XIV, prescrit qu'à la première tentative d'évasion, on lui coupe un bras, à la seconde, on lui coupe aussi une jambe, enfin, etc., etc. Des châtiments physiques très cruels. Que dit la Torah ? Hein, lorsqu'un esclave en fuite vient chez toi, ne le renvoie pas chez ton maître, accueille-le dans ta maison. Bon. Encore une fois, ça prend à rebrousse-poil, ça contredit radicalement toute l'histoire de l'humanité jusqu'au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Hein, il y a là quelque chose qui, à mon avis, est l'indice que ceux qui ont rédigé cela se souvenaient d'avoir été esclaves au pays d'Égypte, c'est-à-dire esclaves du pharaon et des rois qui collaboraient avec le pharaon. Il y a quelque chose de Habirou là-dedans, il y a quelque chose de la rumeur des insurgés qui continue de nourrir très fortement les prescriptions alariques qu'on trouve notamment dans Vayikra. Bon, dans le livre, j'évoque aussi un autre aspect qui est intéressant, c'est tous les rituels de purification des gens qui sont atteints de Sara'at, on peut dire la lèpre, pour aller vite, mais même si ça ne traduit sans doute pas la lèpre telle qu'on la connaît. On sait que dans de très nombreux peuples, tous les autres peuples de cette époque, le lépreux était considéré comme impur pour toujours, et donc obligé de fuir au désert, ou alors on les massacrait tout simplement. Bon, dans un de mes livres précédents, je m'étais intéressé à un grand massacre de lépreux qui avait eu lieu en France au début du XIVe siècle. Puis après, on est passé très vite des lépreux aux juifs. Le massacre de lépreux s'est transformé en pogrom. Mais passons. Les lépreux étaient considérés comme des êtres fondamentalement impurs, souillés, qu'il fallait absolument bannir. Alors que nous dit Vayikra, que nous dit Lévitique, qu'il existe des rituels cathartiques permettant de purifier le lépreux. Pas forcément de guérir de Sara'at, c'est pas un traité médical. La Torah n'est pas un traité de médecine, c'est pas non plus un traité de magie. Simplement, il donne des éléments rituels permettant de purifier le lépreux, le metzora, celui qui est atteint de Sara'at, pour qu'il puisse réintégrer la communauté, sans souiller la communauté. Ça, c'est très intéressant. Ça va à l'encontre de quelque chose qui est très puissant dans toutes les cultures de l'époque et qui va perdurer à travers les siècles, c'est-à-dire la désignation d'une catégorie d'hommes comme impur par nature, comme impur et donc destiné soit à être exterminé, soit à être exclu, ségrégué, etc., comme les parias de l'Inde. Je crois qu'il y a actuellement 300 millions de parias intouchables dans l'Inde aujourd'hui, et encore dans certaines campagnes de l'Inde, lorsque un dalit, un paria, va boire au puits des castes supérieures, on le lynche, on le tue parce qu'il a souillé l'eau. Donc c'est des choses qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Or la Torah va contre cela. Il est possible de purifier l'impur. Donc il n'y a pas de restant hétérogène qui serait forcément maudit, qui serait forcément impur. Et je pense que le rite du bouc émissaire, qui est aussi dans Vayikra, dans Lévitique, a aussi cette fonction de purification fondamentale. Là, c'est l'ensemble du peuple qui doit être purifié à travers ce rituel complexe qu'on peut lire de différentes façons. Bon, voilà. Donc je pense qu'il y a donc ce que j'appelle dans mon livre la signature de Moïse, c'est-à-dire des indices montrant de manière probante que la dimension halakhique de la Torah renvoie quelque chose qui était de l'ordre d'une émancipation, profondément. D'une émancipation d'esclaves ou d'asservis qui ont rompu leurs chaînes. Et les lois auxquelles ils vont se soumettre sont des lois qui attestent de cela. Et ce n'est pas un hasard si pendant deux ou trois siècles, cette société nouvelle va être une société sans État et sans roi. Et lorsque le peuple, oubliant son alliance initiale, en vient à réclamer un roi, comme les grenouilles de la fable, le prophète Samuel, j'évoquais ça tout à l'heure, leur fait un discours qui est inouï, un discours dont on ne trouve aucun exemple dans aucun autre texte de l'Antiquité. Il faut attendre la Boétie, le XVIe siècle, pour qu'il y ait un discours sur la servitude volontaire. C'est une critique féroce de l'oppression monarchique, c'est-à-dire de l'oppression de l'État dominé par un monarque. Mais le peuple est tellement stupide que, malgré ce discours de Samuel, il continue de réclamer un roi. Alors donc Samuel va prier Hachem, et Hachem lui dit cette phrase extraordinaire: écoute la voix du peuple. Je cite pour mémoire, mais je pense que je ne me trompe pas. Écoute la voix du peuple, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi comme roi. Phrase extraordinaire. Où donc Hachem dit, ce que le peuple est en train de faire, c'est rejeter ce que Martin Buber appelle la royauté de Dieu. C'est-à-dire le fait qu'aucun homme n'a le droit de dominer les autres. Que la place du souverain ne peut être occupée que par Dieu lui-même. Et que donc aucun homme ne peut s'ériger au-dessus des autres hommes. Bon, et quand Hachem dit, écoute la voix du peuple, ça veut dire qu'au fond, le principe légitime, c'est la voix du peuple. même lorsque le peuple se trompe et qu'il renie son propre Dieu. Très intéressant aussi, très intéressant. Hein, vous voyez, donc, il y a toute une série d'éléments dans la dimension anarchique que vous évoquez qui vont dans le sens de ma construction. Voilà. Il y a d'autres éléments qu'on peut discuter, mais bon, le thème des villes, l'exemple des villes-refuges aussi, il y aurait beaucoup à dire sur l'institution des villes-refuges. Lévinas écrit des très belles choses là-dessus. Il y a aussi une volonté d'offrir un refuge pour ceux qui sont peut-être injustement persécutés. Et bon, qu'est-ce que l'État d'Israël pour nous tous ? C'est un État-refuge. C'est un État qui a été créé aussi par les survivants de la Shoah pour offrir un refuge à tous les Juifs persécutés. Et ça renvoie à la situation abominable où on est actuellement. On a l'impression que ce qui était un refuge est devenu le lieu le plus dangereux. Vous voyez, bon, donc je pense que ce que vous appelez des éléments contre-intuitifs qui contredisent la construction ne la contredisent pas forcément. Après, il y aurait toute la dimension de l'interdiction du sacrifice humain. Ça me paraît un élément tout à fait fondamental. C'est donc comme ça que j'interprète aussi le buisson ardent, hein, le buisson qui brûle sans rien dévorer. Mais bon, il faudrait du temps pour expliquer ça. Je pense que le sacrifice du fils du roi était visiblement un élément central du rituel monarchique dans l'ancien Canaan et dans cette région-là.
Hein.
Tout à fait. Et Girard va reprendre ça. Bon, tout à fait. Alors, et donc, il y a un mythe cananéen qui dit que le dieu roi El a sacrifié son fils unique, son fils Yedoud, pour sauver le royaume. Alors, moi, mon hypothèse, c'est que le récit de la Akeda d'Isaac vient vraiment briser ce vieux rite. Non seulement parce qu'il est interdit de sacrifier un être humain, parce que le sacrifice humain, c'est un meurtre. Hein, donc, c'est absolument interdit par la loi juive. Et ça, à l'époque, c'était une chose banale, hein, très banale, qu'on sacrifie son fils pour son Dieu, c'était tout à fait banal chez tous les peuples environnants. Mais en plus, je pense que c'est une dimension anti-monarchique aussi, puisque le sacrifice du fils était une manière de consolider, de sacraliser la monarchie, me semble-t-il, hein, c'est une hypothèse. Donc vous voyez, voilà, donc j'essaie de tenir compte de ces éléments-là. Et je pense que bon, nous n'avons pas de quoi rougir de ce que nous enseigne la Torah. Hein, c'était profondément un message d'émancipation, un message qui continue encore de nous parler. Hein, accueillir l'étranger, comme je disais tout à l'heure, accueillir l'étranger en lui donnant les mêmes droits que ceux qui sont d'ici, l'aimer comme nous-mêmes, c'est un impératif, c'est une mitzvah qui garde toute son actualité aujourd'hui en Occident, où on n'est pas très accueillant vis-à-vis des étrangers, y compris les gens qui se prétendent chrétiens.
Alors, on va essayer d'aller un tout petit peu plus vite, parce que encore, j'ai comme ça au moins 4 questions, donc Serge.
Je vais être bref. Monsieur, d'abord, je suis très heureux de vous avoir entendu, parce que d'abord, il y a une preuve qui est certaine, c'est que vous êtes juif, parce qu'il n'y a qu'un juif qui peut venir critiquer comme ça la Torah des fondamentaux. Dans l'islam, par exemple, il n'y a pas le droit à ça, et c'est cette liberté. Je suis aussi très heureux de voir que celui qui a réagi de manière la plus épidermique, ça a été un Lévi. Lévi, au moment du veau d'or, qui a refusé, ils ont refusé, cette tribu qui a refusé. Et c'est parfait. Donc, vous êtes un philosophe, et le philosophe, on vous a connu dans vos maladies ce réflexe de la déconstruction qu'on a vu avec Derrida ou Heidegger. Enfin, encore une fois, je pratique la voile, et on dit qu'un bon marin, c'est celui qui a réussi à combattre une mer agitée. Et aujourd'hui, vous nous avez livré, en tout cas pour moi, une force 7, une force 8, des vents avec des grandes vagues. Celui qui ne sait pas naviguer sur des grandes vagues, qui reste au port et qui regarde des vidéos sur la voile. Donc c'était très intéressant, en tout cas. Maintenant, nous sommes, bien sûr, je suis un dirigeant communautaire et je dois être celui qui amène ma communauté à ce que les fidèles, les enfants des fidèles, les petits-enfants des fidèles restent juifs. C'est-à-dire, je dois leur livrer une matière intellectuelle qui va leur permettre de supporter tout ça. C'est vrai que maintenant, dans les communautés, et dans la communauté que je préside avec un rabbin qui est un philosophe, Elie Ebidia, pour le citer, l'approche n'est pas la même. Il ne peut pas prendre la parole comme il y a 60 ans, où on avait peur de Dieu, quelqu'un qui était dans le ciel avec un marteau qui attendait de descendre pour mettre un coup sur la tête, avec une moyenne de Bac plus 3 dans ma communauté, vous ne pouvez pas avoir le même langage, il est certain. Cependant, il y a dans cette transmission, il y a des règles. C'est-à-dire, autant je sors plus fort de, si vous permettez, de votre attaque aujourd'hui sur mes fondamentaux, parce que je résiste, je suis comme M. Lévy, j'ai écouté, mais ce n'est pas pour ça que je vais adhérer à votre truc. Mais simplement dans la responsabilité, je dois faire en sorte que l'aliment qui va être donné à ma communauté soit digeste. C'est-à-dire qu'ils s'en sortent en bonne santé après l'avoir entendu. Et je ne suis pas sûr qu'avec votre approche, qui est très intéressante, mais elle s'adresse à une couche du public qui peut résister grâce à ses connaissances et pas livrer cru à une communauté, par exemple, qui n'a pas un socle solide dans ce qui est l'étude de tous ces textes qui nous entourent. Il faut faire attention. Moi, je suis là pour le... Enfin, je suis là, pas je suis là, je suis... un pion dans les mains de Dieu, je suis le concierge d'une communauté, mais avec les rabbins que l'on donne, on fait attention à ce qu'on leur dit, parce que, vous savez, se dériver, tomber du fil, c'est pas du funambulisme, la Torah. Il faut être dessus, des fois c'est très difficile. Donc, si vous voulez, moi je me sens, je rejoins un peu les réflexions des gens autour de cette table, mais je vous remercie parce que ça me renforce, puisque comme dans navigation, plus on a affaire à des grosses vagues, plus on est un meilleur navigateur. Et dans les preuves, c'est vrai que si on s'en tient aux preuves archéologiques, c'est vrai qu'on ne peut pas apporter des piles d'archéologie. Mais une des meilleures preuves, c'est qu'il y a quelques mois et dans deux mois, on va être à une table et on va chanter Manishtana Lailazé. Et ça, il n'y a personne. C'est mieux que l'archéologie. C'est mieux qu'une preuve. Parce qu'il va avoir à cette table les mêmes aliments et la même histoire. Cette histoire que l'on rencontre depuis des années. À la fin, elle est gravée et elle fait force de loi. Elle est même mieux qu'une preuve archéologique. Parce que c'est ce que je vais manger, c'est ce que j'ai mangé de mon épouse. Je l'ai mangé de ma femme, j'ai mangé de ma grand-mère, qui elle-même de ma grand-mère. Et ça, c'est pour moi, cette filiation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour finir, c'est que, comme vous avez parlé du roi Ouin, etc., vous aurez remarqué que dans le Rambam, et dans le vrai, est écrit que quand on ouin un roi, on le ouin avec de l'huile, on prend le petit doigt, on lui fait une croix sur la tête. Et vous avez remarqué qu'il y a quelques mois, le roi Charles, lorsqu'il a été ouin, et il a demandé à ce qu'on le fasse derrière un tissu et pas à la vue de tout le monde pour pas dire qu'il a été ouin à la manière des Juifs. En tout cas, je vous remercie, c'était très intéressant.
Il a dit ça, c'est pour pas être juif.
Comment ?
Le Rachel a dit ça dans les...
Non, il n'a pas dit ça. Mais il y avait des caméras du monde entier dans tout le défilé, sauf au moment où il était ouin, parce que c'était quand il était ouin, c'était à la manière des Juifs, comme c'est écrit chez les Juifs, en tout cas. C'est caché.
Je ne sais pas, c'est qui vous différencie. Je ne sais pas, j'en sais rien. Peut-être parce que c'est le moment le plus sacré. Et que le moment le plus sacré, ils ont besoin de se retirer de loin des peuples. Je ne sais pas. Mais pour le moment, j'ai posé plein de questions. Enfin, je suis vraiment une communauté, comme j'ai dit tout à l'heure, la communauté libérale de Strasbourg. Mais je ne suis pas du tout un dirigeant de cette communauté, donc je n'ai pas la même préoccupation que vous. Hein, j'ai fait ce livre, je suis intervenu aujourd'hui en tant que philosophe, Thierry Young, dans une édition. Sur les recherches, donc je comprends très bien votre souci, il y a un souci de dirigeant communautaire. Bon, c'est pas le mien, parce que c'est pas ma fonction, mais voilà, donc, moi je pense pas que ce que je dis est bon ou détruit la confiance. J'ai évoqué tout à l'heure cette dame, là, ce soir de Chavois, qui a vraiment exposé, il m'a dit, mais alors la Torah nous a menti. Alors j'ai dit non, au contraire, la Torah dit vrai. Simplement, il faut qu'il fonde une certaine déformation, voilà. Dire qu'il y a un noyau de vérité dans la Torah, qu'il s'est vraiment passé quelque chose à cette époque reculée, qui est de l'ordre d'une émancipation, d'un affranchissement, d'une libération, et qu'il y a sans doute eu quelqu'un qu'on peut appeler Moïse, qui a témoigné de ce Dieu libérateur, bah, ça ne paraît pas saper ou affaiblir la confiance qu'on peut avoir dans notre tradition, au contraire.
Hein, ça vous l'a été dit, c'est que... En fin de compte, c'est un dieu qui a été créé par l'homme.
Et nous, c'est pas le cas. C'est des choses que j'ai faites. J'ai jamais dit ça, je ne dirais
jamais. C'était.
Je ne dirais jamais une chose pareille, justement, parce que j'interviens en tant que philosophe. Et un philosophe, je suis désolé, on a parlé de la méthodologie tout à l'heure, on a des règles de méthode. Un philosophe, bon, c'est, opère différemment d'un pompier ou d'un médecin. On a des règles, pas déontologiques, des règles méthodologiques. Et une des règles que je respecte en tant que philosophe, c'est mettre en suspens toute affirmation de croyance. Donc lorsque je parle en tant que philosophe, je ne dirai jamais Dieu existe, j'en ai la preuve. Je ne dirai jamais non plus Dieu n'existe pas, j'en ai la preuve. Parce que ça, c'est une affirmation dogmatique. Quand on est philosophe, je ne peux pas assumer. Bon. Lorsque je cesse un instant d'être philosophe et que je participe par exemple à un office de Shabbat ou à un office de Kippour, à n'importe quel office, là je m'entre parenthèse dans ma conviction de philosophe et je suis quelqu'un d'autre. Mais lorsque je procède en tant que philosophe, comme je l'ai fait en écrivant ce livre, là j'ai respecté les règles minimales, à savoir que bon, on ne peut pas démontrer philosophiquement par des preuves rationnelles qu'il existe un Dieu ou qu'il n'existe pas. Donc je ne dirai jamais que Dieu est une invention des hommes. C'est une affirmation dogmatique. C'est une affirmation dogmatique. Parce que dire que Dieu est inventé par les hommes, ça présuppose qu'on a prouvé que Dieu n'existait pas, et donc c'est forcément une invention humaine.
Ok, on va passer.
Qui pourrait prouver que Dieu n'existe pas? C'est une question. Donc c'est pas moi, c'est Thomas Sommer qui a écrit un livre appelé L'invention de Dieu. Moi, je ne dirai jamais que Dieu est inventé par des hommes. Ça veut dire, je n'en sais rien. Je vais essayer d'analyser les textes qui mettent en scène Elohim et le nom Hachem.
On a compris. Bernard. Non, mais juste, j'en ai. Oui. Il faut qu'on. Bernard, je suis désolé. Tout à l'heure. J'ai encore 3-4 questions.
Attendez, dis-moi, mais.
Toi, tu dois intervenir. C'est pas chaud.
Par Dieu,
ok. Bernard, monsieur Rogozinski, on va écouter Norbert Avenaïm. Allez, pardonnez-moi, voilà. C'est contre personne, c'est pour que tout le monde.
Alors, je vais essayer de calmer le jeu. Essayez. D'abord, je voudrais vous remercier, comme les gens l'ont fait. J'ai trouvé votre exposé intéressant. Et en particulier, j'ai trouvé intéressant le fait que vous ayez éclairé la Torah. Par rapport à la pensée moyen-orientale, et que vous avez pointé justement la spécificité et l'unicité de la Torah, puisque elle se dresse précisément en contre un certain nombre de choses qui avaient cours dans le milieu environnant. Entre autres, le sacrifice humain, le fait que toutes les religions ont été créées, en tous les cas, au moins utilisées pour conforter le pouvoir, alors que c'est la seule religion qui est profondément anti-pouvoir et donc qui est une religion de liberté, en fait. Vous avez vraiment mis le doigt là-dessus, et je trouve ça vraiment très intéressant. Je voudrais parler pour essayer de calmer le débat, je voudrais parler de la vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité? Voilà. Alors, je suis... Voilà. Alors, je suis... Bon, à la base je suis un scientifique, et la vérité scientifique n'est jamais qu'une théorie qui est basée sur des hypothèses, qui explique un certain nombre de faits qui peuvent être constatés. Et plus la théorie explique de faits, et plus elle est, entre guillemets, vraie. Hein? Mais ce n'est jamais qu'une théorie, qu'une élaboration, hein? Et elle peut être contredite par la suite. Et d'ailleurs, vous dites il y a des faits incontestables. Popper dit le contraire. Il dit que pour que quelque chose soit vrai, il faut qu'on puisse prouver fausse, la démontrer fausse. Parce que sinon, ce n'est pas une vérité, c'est un dogme, justement. Et ce que je voulais dire également, c'est que dans le judaïsme, c'est pareil. Quand on étudie la Gemara, on cherche à trouver ce qu'on appelle un pshat, une explication de la discussion qui se trouve là. Hein, et il peut y avoir plusieurs explications de cette même sugya, de cette même problématique. Hein, bon, explication de Rashi, explication de Tosfot, qui souvent n'est pas la même, etc. Dans la Torah, c'est pareil. Dans la Torah, il y a le pshat, qu'on appelle souvent l'explication simple, mais en réalité, l'explication simple est très compliquée. D'habitude, les gens pensent que le pshat, c'est ce que dit Rashi. Hein, Rashi, il donne un pshat qui a été contesté par d'autres commentateurs, dont son petit-fils, le Rashbam, qui a dit non, ça c'est pas le pshat, c'est pas suffisamment proche du texte, hein. Ibn Ezra, lui, il est très très dur par rapport à Rashi. Il dit que c'est 99%. Il n'emploie pas ce terme. Il dit Roubo que Kulo, c'est du Midrash et c'est pas du Pshat. Hein? Voilà. Il a une autre interprétation qui est son interprétation du Pshat, qui donne sens au texte et qui se réfère à des choses différentes. Et j'ai fait un cours là-dessus et je suis arrivé à la conclusion que tous ces pshatim sont effectivement des explications qui donnent une cohérence au texte par rapport à un certain référentiel. C'est-à-dire que Ibn Ezra, lui, il considère que ce qui est essentiel, c'est de respecter la syntaxe, la grammaire, le sens grammatical du texte. Hein? Le Rashbam, il veut une cohérence avec le contexte et il parle même des mœurs de l'époque. Dans ce référentiel, il propose une autre explication qui tient compte de ces éléments. Rashi, lui, eh bien, il introduit, en fait, justement, la cohérence avec la Torah orale, dont parlait Bernard tout à l'heure. Hein, et donc, il introduit dans l'explication du pshat de la Torah écrite des éléments de la Torah orale pour l'expliquer en cohérence avec la Torah orale. Et donc, il arrive forcément à une explication qui est différente des autres. Donc, Pourquoi je suis allé sur cette grande question de la vérité? Parce que je pense que là, la discussion qui a eu lieu là, c'est une question de référentiel. C'est-à-dire que Bernard se réfère à un corpus d'informations qui est la Torah écrite et la Torah orale. Et vous, comme vous l'avez d'ailleurs très honnêtement dit, au départ, vous avez ouvert les éléments que vous vouliez prendre en compte, et vous avez pris en compte des éléments d'archéologie, etc. Pas des éléments d'ailleurs de critique biblique, hein, mais des éléments d'archéologie. Et simplement, en prenant en compte d'autres éléments, il est normal d'arriver à une autre version de la vérité. Je ne pense pas que ce soit incompatible et ni tellement grave, d'ailleurs, qu'on a plusieurs, en fonction du point de vue qu'on a et des éléments qu'on prend en compte, on a un autre système d'explication qui peuvent coexister, hein, comme nous disent les sages, « Elou ve elou divrei Elohim Chaim ». Voilà. Si j'ai encore une minute, je voudrais faire une remarque sur le veau d'or dont vous avez parlé. Bon, c'est une grande question. Les commentateurs se sont posé la question depuis le départ. Comment un peuple qui a eu la révélation directe de Dieu a pu faire de l'idolâtrie, et c'est effectivement un problème. Et beaucoup de commentateurs disent non, mais ils n'ont pas fait vraiment de l'idolâtrie, ce qu'on appelle un chitouf. Ce qu'ils ont associé à un dieu abstrait une espèce de représentation concrète de la divinité qui correspondait à la constellation par laquelle, enfin, du moment où ils sont sortis d'Égypte, etc. Nachmanide a une explication très très intéressante, je trouve, parce que il dit que le but du veau d'or n'était pas de remplacer Dieu, mais de remplacer Moshe. Parce qu'il dit « Zé Haïch Moshe », cet homme Moshe, on ne sait pas ce qu'il est devenu, et fais-nous un dieu, c'est-à-dire fais-nous un signe qui marche devant nous. Donc il voulait un guide qui remplace Moshe, parce qu'il pensait que Moshe, au bout de 40 jours de jeûne, il était mort. Voilà. Bon. Donc, pour dire que La tradition, effectivement, s'est attaquée à cette question et a trouvé des explications qui sont tout à fait cohérentes. Maintenant, l'élément linguistique que vous apportez est aussi intéressant en disant que en Égypte, le pharaon était appelé veau d'or. C'est intéressant, effectivement, ça explique peut-être pourquoi la réaction était tellement, tellement violente. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Norbert, Benaïm. Peut-être que, parce que là, on va clôturer.
Merci, parce que, on est d'accord sur le fond, sans aucun doute.
Je veux juste qu'on entende également, peut-être, on parle de un an, Yona Bitbol.
Je voudrais aussi me mêler à l'échange. D'un point de vue traditionnel, le travail auquel vous nous avez convié, il s'appelle Dame Hachetachiv. Sache rétorquer à une opinion dominante. On l'appelle Dame Hachetachiv l'Apikoros. Et vous retombez très bien sur vos pieds, puisque vous ne tirez d'autorité que ce que vous lisez justement chez les historiens et les archéologues. Et c'est à partir de ce que vous avez lu que vous essayez, puisque vous êtes un juif alsacien, de réinscrire ça. Et pourquoi pas que Moïse, ça serait Moïse, quoi. Donc moi, tout le travail que vous avez fait, si on veut le présenter, on va dire, d'un point de vue du Beit HaMidrash, on peut dire que c'est en faisant justement abstraction de la vérité ou de l'approche traditionnelle et en n'utilisant que les arguments de l'adversaire pour lui répondre. Et bon, moi, je ne fais pas partie de cette école. Donc, j'ai pas, on va dire, gagné quelque chose, mais ce que j'ai entendu, c'est un exposé très rigoureux qui reprend les arguments du discours dominant des Finkelstein et autres pour refaire entendre une voix que j'appelle le judaïsme alsacien, qui sait faire entendre même dans un discours pétri de Apikorsout, des données traditionnelles.
Bon, c'est anecdotique, mon fils, un Alsacien d'adoption. Hein.
Comme moi.
Hein. Bon, ils ont tous d'ailleurs, ils ont tous été étrangers au pays d'Égypte. Bon, je vous remercie tous les deux pour vos remarques, hein, parce qu'elles apaisent un petit peu le point public de la controverse, mais il n'y a pas de controverse sans. C'est bien de s'échauffer un peu. Mais vous avez raison, vous avez tout à fait compris mon point de vue. Hein. Utiliser les arguments de l'adversaire pour lui répondre. Hein, c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre. Et oui, bon, c'est un problème de référentiel aussi. Très clairement, très clairement.
Et oui, bon, effectivement, vous avez cité le Talmud dit très clairement que lorsque deux écoles s'opposent, les deux paroles sont des paroles du Dieu vivant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité qui serait plus vraie que l'autre vérité lorsqu'on respecte certaines règles de base, voilà, hein, des règles de lecture, de probité aussi. Je pense que, bon, donc... je ne pourrais pas terminer par une sorte de note syncrétique ou écuménique, mais je pense qu'on n'a pas des accords de fond, me semble-t-il. Malgré l'âpreté ou la dureté de certains échanges, je pense qu'on cherche la même chose, en fait, ici. Enfin, moi, j'ai l'impression que je cherche la même chose que vous, mais par un biais un peu différent. C'est pour ça qu'au début, j'ai évoqué les 70 visages à Torah. C'est une très belle formule, ça, les 70 visages à Torah. C'est-à-dire que la Torah est ouverte à une pluralité d'interprétations, au fond, peut-être pas infinie, mais innombrable. Et tout sens nouveau apporte quelque chose à la Torah. Mmh. Voilà. Et ne contredit pas forcément ou ne chasse pas les sens précédents. Bon, 70, c'est aussi le chiffre qui définit les nations. Et bon, c'est ce très beau midrash dans lequel il dit que bon, la parole, la révélation au Sinaï, c'est dite en 70 langues. Donc adressée à tous les peuples de la Terre. J'en parle un peu dans le livre, j'appelle ça l'universalité juive. Simplement, il n'y a que dans une seule langue qu'elle a été entendue. Donc, mais ça, c'est très important aussi de dire ça. C'est-à-dire que c'est une parole qui, dès le départ, est plurielle. Plurielle, ouverte à la discussion, ouverte à la pluralité. Bon, voilà, donc j'ai essayé de découvrir un des 70 visages à Torah, qui est différent des 69 autres. Mais je reste persuadé que c'est un des visages possibles de la Torah. Voilà.
Allez, est-ce que vous pourrez faire une... Je vais prendre juste...
Une question.
Il y avait trois personnes qui veulent parler, mais juste après une réponse en une minute, histoire d'entendre vraiment ce qui voulait parler. Je les prends les trois en même temps.
Tout d'abord, merci beaucoup. Quand j'avais entendu votre présentation chez Marc-Alain Wachnin de votre livre, j'avais trouvé qu'il était fort intéressant. Je venais de terminer un bouquin ancien de Bruno Carsanti sur Moïse, et qui faisait un rappel justement avec le Moïse de Freud. Et j'avais trouvé qu'au contraire, votre présentation était tout à fait dans le ton de ce dont on parle, la politique. Parce que c'est de la politique, Moïse, pour moi. Et que cette révélation et que les lois apportées et la création d'un peuple et d'un collectif au Mont Sinaï, c'est pour moi de la politique. Et je trouvais que vous étiez tout à fait dans le ton de la politique. Je pense qu'effectivement, pour faire très court, il n'y a pas de raison d'être choqué de quoi que ce soit. Je veux dire, les uns et les autres, nous avons des prismes différents. Je fais partie du peuple juif, j'ai un prisme différent. Je trouve que tous ces livres qui sont autour de moi et dont je n'ai jamais ouvert une page, c'est quelque chose de remarquable. Je fais partie d'une tradition. Je n'ai pas cette culture, en tout cas, du travail dans les textes. Mais en tout cas, je suis tellement heureuse à chaque fois de venir dans ce Beit HaMidrash parce que jamais j'aurais cru qu'un jour je ne viendrais entendre des choses dans un Beit HaMidrash. Et déjà, de côtoyer, je suis ravie. Et de vous côtoyer aussi.
Moi aussi. Merci beaucoup, Daniel. Léo, rapidement, puis Samuel, très rapidement. Tous les deux, rapidement.
Je vais essayer d'être concis. Merci encore une fois beaucoup pour votre intervention. Pour rentrer dans votre référentiel et votre propos, une de vos hypothèses, c'est de dire qu'il y aurait un refoulé de la révolution israélite à l'époque des rois. Et ça serait... Alors, on pourrait le considérer comme un de vos chidushim. Donc, pour peu... Et laissons de côté le fait que cette révolution israélite, est-ce qu'elle a eu lieu ou non, quelle source égyptienne la traite. Alors, pourquoi il y aurait eu ce refoulé d'une part. Et depuis quand... vous l'avez dit, mais les scribes des rois... Non, mais ça marche pas. Si on lit le livre des rois, on sait, les textes sont très crus quand même.
Oui, mais.
On n'est pas dans un registre hagiographique où on va faire les. Non, ça ne marche pas du tout comme argument.
Non, le livre des rois est rédigé après le livre
des rois.
Oui. Mais non, ce que je veux dire, c'est que. Je voulais terminer, excusez-moi.
Non, mais ma question, c'est ça, c'est en quoi la conscience israélite, du peuple juif, on l'appelle comme on veut, aurait refoulé, qu'est-ce qui aurait gêné cette conscience-là, au-delà des rédacteurs, parce que ce n'est pas des textes qui sont du tout hagiographiques sur les rois d'Israël.
Juste la question de Sébastien Fantich, merci Moi, beaucoup.
J'avais une question sur le plan des sources par rapport à la révolte des Abirous. J'avais entendu parler d'une révolte des Hyksos, qui était rapportée notamment par Flavius Joseph. Je voulais savoir comment vous positionnez par rapport à cette théorie et en quoi vous trouvez qu'elle est insuffisante.
Le mot de la fin.
Pour répondre à la première objection,
élections.
Oui, c'est très compliqué. Évidemment, ça raconte des histoires de coups d'État, d'assassinats, des choses comme ça. Mais là, ce qui a été refoulé, à mon avis, c'est quelque chose de plus qu'un simple putsch dans un palais ou un général qui assassine son roi pour le remplacer. C'est un peuple qui se dresse pour briser les statues des idoles et les statues des rois. C'est quelque chose de plus radical et de plus inquiétant, peut-être.
Oui, mais les rois égyptiens, si on va...
Non, les rois de Canaan. Les rois de Canaan qui étaient les vassaux du pharaon. Oui, tout à fait. Je pense que simple idée qu'un peuple puisse se dresser et tuer les rois comme des chiens, c'est insupportable pour l'idéologie royale de tout temps, de toute époque. C'est une hypothèse, hein, c'est une hypothèse. Et aussi ce que j'ai dit sur la volonté de présenter le peuple d'Israël comme un peuple ethniquement un, hein, et non pas comme une alliance de rebelles. Mais bon, c'est des points qu'on peut discuter. Je pense qu'il y a eu un certain refoulement et qu'il y a eu un retour du refoulé au moment de l'exil qui a réactivé certains éléments plus anciens qui avaient été déformés et oubliés. Mais ça reste forcément des hypothèses, puisque bon, le livre des rois est écrit après la période des rois, et dans un point de vue extrêmement critique. C'est sans doute un livre qui a été fait probablement à l'époque de l'exil, à une époque où la monarchie judéenne et le royaume d'Israël étaient considérés comme vraiment quelque chose qui avait failli, qui avait échoué, qui avait trahi l'alliance, très clairement. Non, ce qui est en jeu, c'est la conception qu'on se fait de l'alliance, mais là, il est trop tard pour développer ça. Est-ce que c'est l'alliance de tout le peuple avec un dieu? Ou est-ce qu'il y a une alliance entre un dieu et un roi? Parce que l'alliance de David, David dit, Hachem m'a promis à moi et à ma descendance une alliance pour toujours. Et là, l'alliance se passe entre un roi et Dieu, si vous voulez. Voilà. C'est très différent de l'alliance du Sinaï, où là, c'est un peuple tout entier, sans roi, sans noble, sans aristocrate, qui passe tout entier d'une seule voix, alliance avec le Dieu. Hein, donc là, il y a vraiment une divergence entre l'alliance de Moïse et l'alliance de David qui me paraît tout à fait radicale et qui renvoie sans doute à ce qui s'est passé historiquement, c'est-à-dire la restauration de la monarchie au bout de 2 ou 3 siècles. Voilà, donc forcément, ça a entraîné des remaniements d'histoire, des transformations de la tradition. Je pense que la Torah a été rédigée à différentes époques par différentes personnes, des hommes, et forcément, la rédaction était influencée par le contexte. Ce qui est admirable et tout à fait étonnant, c'est qu'on trouve quand même dans la Torah des textes qui, interdisent de renvoyer à leur maître des esclaves fugitifs, qui ordonnent d'émanciper les esclaves tous les 7 ans, qui dénoncent la royauté, discours de Samuel, comme étant quelque chose d'oppressant, de prédateur, d'exploiteur, etc. Des textes totalement nouveaux dans le contexte de l'époque. Hein, c'est ça qui me paraît intéressant. Voilà, c'est sur ça que j'ai voulu mettre l'accent, essentiellement. Alors maintenant, oui, les Hyksos, oh là. Ça nous ramène beaucoup plus en arrière dans le passé. En deux mots, les Hyksos, c'était des envahisseurs asiatiques. Alors, ça nous ramène au XVIIIe siècle, avant l'ère commune. Donc, longtemps avant tout ce dont j'ai parlé. C'est des envahisseurs asiatiques, venant peut-être de Canaan, on ne sait pas trop, qui, pendant un siècle, sont emparés du pouvoir en Égypte et ont régné comme des sortes de pharaons, comme des rois étrangers. Et à un moment donné, les Égyptiens se sont révoltés contre ces oppresseurs et les ont chassés. Il semblerait qu'un pharaon venant du sud ait poursuivi les bandes de Hyksos à travers le Sinaï jusqu'en Canaan. Un pharaon appelé Ahmosis. Alors il y a des auteurs, je pense, notamment Thomas Romer ou quelques autres, hein, ou Asman aussi, qui disent au fond le noyau de l'histoire de l'Exode, c'est l'expulsion des Hyksos. Je ne suis pas d'accord. C'est un peu comme avec Freud, à mon avis, quelque chose est manqué. Pourquoi ? Parce que les Hyksos, c'est des pharaons, c'est des oppresseurs étrangers. C'est des gens qui sont des rois étrangers, des occupants, qui sont virés et remplacés par d'autres pharaons plus autochtones. Or, le récit de Shemot ne parle pas de ça. Il parle d'un peuple d'esclaves qui se libère des chaînes de l'oppression. Donc, c'est tout à fait le contraire. Alors, si c'est vraiment ça le nœud de vérité de la Torah, ce noyau était totalement renversé, totalement défiguré et transformé. Ça, c'est l'objection que je fais à des auteurs honorables comme Romer et Asman, qui mettent en avant cette histoire des Hyksos. Ça raconte une toute autre histoire. Pas une histoire d'émancipation, une histoire de bagarre entre pharaons étrangers et pharaons autochtones. Mais ça, c'est pas le problème du peuple, ça. Vous voyez ? Bon, en tout cas, je voudrais vous... Parce que je crois que c'est l'heure d'arrêter. Je voudrais vous remercier tous pour votre présence et aussi pour l'énergie de la discussion. Hein. Moi, je pense que je suis très attaché à la marloquette, à la controverse. C'est ce qui a nourri le judaïsme vivant.
Merci.
Hein.
Moi, je n'ai pas voulu dire que vous
mentiez
d'humilité.
Si. Non, écoutez-moi. Si, vous l'avez dit.
D'humilité par rapport au texte de la tradition, point barre. Pas du tout le reste, au contraire. Je n'ai pas du tout... Ne pensez pas ça. Mais là, si vous avez pensé ça...
En tout cas, si vous lisez mon livre, vous verrez que je me réfère au Talmud, au Midrashim, à Rashi et un peu au à la Kabbale aussi. Je n'ai pas ignoré tout ça.
Alors, en tout cas, comme je l'ai dit aussi, donc, c'est vraiment sur l'enseignement, pour des fois qu'on peut pinailler, jamais sur la personne. Merci beaucoup.
Très bien. Merci à vous pour votre accueil. Merci vraiment beaucoup pour cette très belle rencontre.
Séance très très importante. Quand c'est un membre du comité scientifique, c'est toujours très important. Mardi 6 février, 20h15, avec Nicolas Veil.
Mais c'était chaud, quoi. Mais je suis content, j'aime bien ça, parce qu'au moins... La philosophie.